Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour et bienvenue à vous qui nous retrouvez sur BPM. 8h et 3 minutes, l'heure du retour de notre émission quotidienne, les rendez-vous du Mantois. Chaque vendredi, nous sommes en direct 20 minutes depuis une mairie. Et je suis à Aubergenville en cette fin de semaine, une ville de 12 000 habitants, une ville à la campagne, au sud comme au nord, et dont l'histoire a été marquée par l'implantation de l'usine Renault au début des années 50. Pour nous recevoir aujourd'hui et en parler comme il se doit, Gilles Lécolle, maire de la commune depuis 2020. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous les auditeurs.
Merci de nous recevoir dans votre bureau. Ce matin, nous allons aborder ensemble plusieurs thèmes importants pour la commune, le budget de la ville, les différents travaux entrepris sur la commune, le retour du relais petite enfance, mais aussi l'installation d'un street workout. Pour commencer, prenons le sujet le plus complexe, celui qui intéresse vos concitoyens, le budget. Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 15 février dernier. Qu'avez-vous décidé ?
Alors effectivement, le 15 février dernier, nous avons présenté aux Aubergenvillois notre débat d'orientation budgétaire. C'est un exercice obligatoire sur le conseil qui précède le vote du budget. Alors, un contexte un petit peu particulier, mais inhérent à toutes les communes, bien entendu, au contexte inflationniste. J'entendais ce matin que la Cour des comptes faisait les gros yeux à l'État en lui reprochant des dépenses beaucoup trop importantes au regard des recettes. Nous concernant, déjà, nous sommes obligés de voter un budget à l'équilibre. Ça, c'est toutes les collectivités qui ont cet exercice imposé. Et heureux d'ailleurs. Alors le contexte 2022, tout le monde l'a vécu, bien entendu. C'est une inflation jamais connue depuis de très nombreuses années. Un contexte inflationniste particulièrement impactant sur les fluides, sur le gaz et l'électricité. Un élément de compréhension. Le budget gaz et électricité de la commune était de 600 000 euros et pour 2023, il est d'1,9 million. Voilà. Donc, vous comprendrez qu'à l'aune de ce point sur les fluides, le budget se veut d'être extrêmement prudent. Nous ne savons d'ailleurs pas à quelle sauce nous allons être mangés dans les mois à venir. On ne sait pas exactement comment l'inflation va évoluer dans un sens comme dans un autre. D'où ce budget qui définitivement se veut prudent, d'autant que côté recettes, la dotation globale de fonctionnement, ce que l'État verse aux communes pour fonctionner, cette année en 2022, il est de zéro. Ce qui veut dire, comme je le dis toujours avec un peu d'humour, que finalement, la bonne nouvelle, c'est que je sais que l'année prochaine, ça ne baissera pas. Vous voyez que côté recettes, pour nous, c'est extrêmement compliqué. On a connu l'inflation sur les fluides, mais aussi une augmentation du coût chargé du personnel, puisqu'il y a une revalorisation heureuse pour les fonctionnaires, mais à la charge, bien entendu, des communes. Donc, dans ce contexte, nous avons déjà porté de grosses économies. J'ai anticipé un petit peu dès l'année dernière, quand j'ai vu que les situations géopolitiques se compliquaient après cette folie de Monsieur Poutine et son comportement insensé au regard de l'Ukraine, on se doutait bien que derrière, il y aurait des conséquences géopolitiques et économiques. Donc j'avais déjà commencé, pour ma part, à apporter beaucoup de rigueur sur les dépenses de la ville. J'ai supprimé les décorations de Noël, j'ai supprimé notre parade lumineuse, j'ai supprimé les classes transplantées. Bref, j'ai voulu quand même porter dès le départ des grandes mesures d'économie pour pouvoir franchir ce cap et pour pouvoir faire en sorte que quand nous allons revenir à meilleure fortune, nous puissions repartir sous de meilleures conditions et avoir un budget équilibré. Et pour soutenir nos investissements, parce que nous avons besoin de toujours soutenir nos investissements, nous avons recours à l'emprunt tant que nous pouvons emprunter dans des bonnes conditions. Alors, à des taux, bien sûr, supérieurs à ce qu'ils étaient l'année dernière, mais je suis pas Madame Irma, je pouvais pas emprunter auparavant. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais emprunté plus tôt. Mais aujourd'hui, nous sommes encore à des taux qui sont très inférieurs au coût de l'inflation.
Des emprunts, justement, dont vous parliez, les emprunts, c'est donc pour préparer l'avenir?
C'est pour préparer l'investissement, puisque nous avons encore des grandes phases de travaux. Nous avons une mise en conformité sur l'ADAP. Nous mettons principalement dans les écoles en conformité sur l'accessibilité. Nous sommes obligés de produire et de créer des ascenseurs dans les écoles pour faire en sorte que les écoles soient accessibles à toutes et tous, y compris les personnes à mobilité réduite qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc ça suppose des énormes investissements dans toutes nos structures. Nous avons aussi, nous le savons, le décret tertiaire qui va bientôt arriver. Le décret tertiaire, c'est ce que nous impose l'État, à savoir qu'en l'aune de 2030, nous devons réduire dans les grandes structures de plus de 1000 mètres carrés, réduire nos consommations d'énergie de 40%. D'où des investissements énormes sur nos gymnases, pour exemple. Réduire de 40% la consommation d'énergie dans un gymnase suppose de faire des travaux énormes pour pouvoir arriver à cet objectif. Et ça a des coûts absolument faramineux.
Les travaux, justement, il y a pas mal de travaux entrepris. Ils sont plutôt nombreux, on va dire, à Aubergenville. Tout d'abord, avec la réfection du bâtiment voyageur en vue des halls.
Oui.
Où en est-on ?
Alors, effectivement, nous avons trois grandes phases de travaux. La première, effectivement, c'est le bâtiment voyageur. C'est des travaux qui sont portés par SNCF Réseau. La gare d'Aubergenville a dû être créée dans les années 70. Hein. Quand vous regardez un petit peu l'architecture de la gare, c'est vraiment estampillé à l'année 70. Aujourd'hui, nous avons l'arrivée des halls. Et préalablement à l'arrivée des halls, nous avons effectivement un réaménagement pour l'accessibilité, bien entendu, avec un espace de coworking, avec un réaménagement de la rue des Brissettes, parce que vous l'avez peut-être constaté, nous avons côté Elisabethville, côté quartier Elisabethville, un accès aussi qui était complètement délaissé depuis des années. Donc SNCF Réseau orchestre ces travaux qui sont en cours et j'espère que nous allons inaugurer notre nouvelle et très belle gare dans quelques mois.
Le quartier de la gare aussi
alors,
va changer.
C'est le quartier de la gare qui, lui, a été est porté par la communauté urbaine. Alors là, c'est un gros chantier parce que, là encore, l'idée, c'était de porter un aménagement préalable à l'arrivée des halls et faire quelque chose qui fasse qu'on ne subisse pas l'arrivée des halls, comme on l'a vu sur certains RER dans d'autres régions d'Île-de-France, où l'urbanisation s'est faite de façon un petit peu désordonnée avec l'arrivée du RER. Nous, ce que nous avons voulu, c'est anticiper. Donc effectivement, autour de la gare, nous avons un réaménagement total avec l'arrivée de 4 quais bus, puisque aujourd'hui, la circulation des bus et des véhicules n'était pas tellement cohérente autour de la gare. Donc un aménagement pour les vélos. 4 quais bus pour pouvoir accepter et envisager demain l'accroissement des circulations douces. Je descends du RER Eole, j'ai des quais bus à proximité de la gare, des véritables quais bus qui nous permettent d'alimenter et de desservir toutes les villages environnants autour d'Eole. Et enfin, une circulation là aussi adaptée, parce que nous avions jusqu'auparavant des feux rouges qui généraient des bouchons, enfin des états de circulation qui n'étaient pas acceptables. Donc là, nous avons une redéfinition. Nous avons encore, environ encore un an de travaux. Donc je sais que ça génère pas mal de désagréments pour beaucoup de gens, mais nous allons avoir un nouveau quartier paysager, végétalisé. Nous allons avoir quelque chose de vraiment sympa autour de la gare.
Un autre grand projet, Briqueville.
Oui, alors le Briqueville, hein, c'est un sujet qui a été déjà amorcé depuis de nombreuses années sur la friche d'enduit. Friche d'enduit, c'était une entreprise historique à Aubergenville qui faisait des clôtures en béton d'ailleurs à l'époque. Et cette grande friche se trouve à proximité immédiate de la gare. L'arrivée des halls fait que, évidemment, il était écrit que nous allions faire du logement en proximité immédiate de la gare. Donc, le projet est déjà bien entamé. Hein. On a des grues et ça pousse. Le projet, il consiste à 9 maisons individuelles, 55 logements collectifs sur 3 petits collectifs, hein, et puis 57 logements dits intermédiaires, avec quelques surfaces de commerce, des petits ateliers. Il y a quand même 249 places de stationnement. Hein. Je sais que c'était une inquiétude pour beaucoup de gens, mais nous avons aussi des places de stationnement. Et enfin, on intègre à ce programme une résidence senior de 90 logements. C'est une résidence senior qui nous permettra d'accueillir nos aînés dans les meilleures conditions possibles. Ils auront leur logement.
Mais ce n'est pas un EHPAD, hein, bien sûr.
Non. Nous ne sommes pas sur un EHPAD. Nous sommes sur des logements adaptés aux personnes, à nos seniors, avec une présence au quotidien, avec le coiffeur, mais aussi avec une personne qui est toujours là, présente, pour pouvoir répondre à leurs sollicitations, à leurs inquiétudes, et puis le fait de savoir qu'ils ne sont pas totalement isolés. Je crois même que dans ce projet, on a même une piscine pour nos aînés. Voilà.
Ça répond à un besoin ?
Oui, 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 à l'évidence, on a un véritable besoin. Aujourd'hui, effectivement, vous évoquiez le sujet de l'EHPAD. Je dirais que entre la personne qui se trouve chez elle et l'EHPAD, il y a un trou, je dirais. Il nous manque quelque chose, il nous manque une structure qui permette à nombre de personnes de pouvoir vivre leur quotidien en toute sécurité. Je crois que ces personnes ont besoin de sécurité, ont besoin de présence.
En parlant de sécurité, vous êtes l'une des communes à avoir très tôt proposé de la vidéoprotection à vos concitoyens. Oui. Le système a depuis vieilli. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors oui, effectivement, je pense que la vidéoprotection, je me souviens, j'étais jeune conseiller municipal à l'époque, quand le maire de l'époque, Monsieur François Bonny, avait porté ce projet de vidéoprotection sur notre commune. Je me souviens, ça avait fait beaucoup de remous, parce qu'à l'époque, tout le monde considérait que c'était une atteinte aux libertés. Bref, aujourd'hui, on n'imagine pas une commune sans vidéoprotection, j'en connais pas aux alentours. Donc notre système était un petit peu arrivé au bout de ses compétences techniques et technologiques. C'est un système hertzien. Nous avons de nombreux arbres qui n'ont cessé de prendre de l'importance, et le système hertzien n'était plus au rendez-vous pour nous offrir le nécessaire. Donc là, nous sommes en pleine réflexion sur la vidéo avec un mix d'hertzien et de fibres pour pouvoir avoir une vidéoprotection avec une nouvelle avec des caméras de nouvelles technologies que nous avons repositionnées. C'est un travail commun que nous avons porté avec la police nationale, avec les enquêteurs de la police nationale, pour savoir où positionner le plus judicieusement possible ces caméras. Voilà. Dans quelques mois, nous aurons une vidéoprotection tout à fait efficiente.
Voilà. Combien de temps ça va prendre ?
Voilà, je pense que dans moins de 6 mois, on doit réussir à avoir notre vidéoprotection tout à fait efficace.
Le complexe sportif Alain Mimoun aussi va voir ses vestiaires bien rénovés.
Oui, là aussi, hein, si vous passez devant le complexe Mimoun, vous verrez que nous avons effectivement des phases de travaux. Là, nous sommes bien, bien, bien avancés. Alors, la réflexion, elle était double, hein. Dans un premier temps, nous avions d'abord une non-conformité de notre terrain synthétique parce que les vestiaires étaient trop éloignés, et nous avions donc, la fédération de football nous disait que nous ne pouvions pas accueillir je ne sais plus quelle catégorie de match parce que les vestiaires étaient trop éloignés du stade.
Ce qui est une obligation. Hein,
oui, une obligation. Une obligation, c'est la fédération de football qui impose cette obligation. Et puis, dans le deuxième temps, nous avions des vestiaires qui étaient des véritables passoires thermiques. C'était une catastrophe. Elles étaient complètement... Le stade Alain Mimoun, lui aussi, doit dater environ une cinquantaine d'années. Il était temps de refaire des nouveaux vestiaires. Donc, nous refaisons des vestiaires, bien sûr, avec un programme énergétique particulièrement soigné et pointu. Et donc, mois de septembre, pour le mois de septembre, je l'espère, je dis toujours je l'espère, parce que on a quand même pas mal de déconvenues avec l'alimentation de tous nos matériaux de construction. Au mois de septembre, nous espérons pouvoir inaugurer notre nouveau vestiaire du Mimoun, qui concerne le football, mais aussi l'athlétisme, le badminton, et puis les scolaires qui utilisent aussi la structure extérieure des terrains de football, mais aussi du gymnase.
L'énergie et les coûts de l'énergie sont quand même au centre à chaque fois.
Oui, oui, bien sûr. Alors ça, l'énergie, aujourd'hui, ben je l'ai évoqué en début d'entretien, hein, effectivement, avec les coûts d'énergie qui ont triplé, hein, tout simplement, sur des structures comme publiques comme les nôtres, c'est un regard, bien sûr, toujours très pointu que nous portons sur ces sujets.
À Elisabethville, un quartier donc d'Aubergenville, une extension du réfectoire de l'école Reine Astrid est prévue. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur de faire.
Oui, alors ça c'est quelque chose, parce que je me suis rendu compte durant le Covid, hein, on a un petit peu oublié, c'est peut-être tant mieux d'ailleurs, les conditions dans lesquelles nos enfants ont vécu ces périodes de Covid et ces périodes, principalement ces périodes de temps à la cantine où nous avions l'obligation d'éloigner les enfants, enfin, ils mangeaient les conditions terribles. Et du coup, on faisait ça
pour
sur plusieurs étapes.
Oui, c'est ça, la distanciation.
Les règles sanitaires. Ces pauvres enfants, vous vous rendez compte, ils mangeaient éloignés de leurs copains. Enfin bon, c'était une horreur. Toujours est-il que ça m'a mis en évidence la nécessité impérieuse de refaire sur l'école Reine Astrid où le temps de cantine n'était pas satisfaisant, de réaménager. Nous avions une espèce de patio qui ne servait absolument à rien. Et donc, j'ai demandé à mes services de faire un réaménagement, là encore, de l'espace de restauration. Voilà, c'est un coût de 300 000 euros, bien entendu. Hein, c'est pas non plus anodin. Mais j'ai voulu qu'on offre aux enfants de Reine Astrid, parce que c'est quand même une école importante. Il y a plus de 150 élèves en primaire. Un espace de restauration digne de ce nom.
Et là, ce sera prévu pour quand?
Eh bien, là aussi, à la au mois de décembre prochain. Pas à la rentrée, mais au mois de décembre, j'espère qu'à la fin de l'année 2023, nous pourrons investir les lieux dans les meilleures conditions pour nos enfants.
Les enfants et leur bien-être, on a compris, c'est un sujet important pour vous.
Oui.
Et vous avez tenu à remettre en place le relais petite enfance en début d'année, ce qu'on appelait avant les RAM, relais d'assistante maternelle. Comment cela s'est fait?
Alors ça, c'est une... Quand on fait la campagne, on rencontre les personnes, on rencontre les assistantes maternelles aussi. Et toutes les assistantes maternelles me disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur l'école. C'est qu'auparavant, nous avions un RAM et que ce RAM a été fermé. Et donc, toutes les assistantes maternelles qui sont en libéral, pas celles qui sont portées par notre commune, pas celles qui sont, bien sûr, dans le giron de la commune, sont encadrées, mais ces assistantes maternelles, elles se retrouvaient seules pour exercer leur quotidien. Les parents, eux aussi, se retrouvaient de facto employeurs, mais n'avaient pas toujours les bonnes méthodes pour pouvoir gérer le quotidien administratif. Et ces assistantes maternelles avaient besoin de se retrouver et d'être encadrées. Voilà. D'où, durant cette campagne, ce souhait que j'ai exprimé, et c'était un point de campagne, de proposer effectivement le rétablissement de ce qu'on appelle le réseau d'assistantes maternelles, qui s'appelle aujourd'hui réseau Petite Enfance. Voilà. Donc nous avons cette promesse de campagne, nous l'avons réalisée, là j'avais dit à la fin de l'année 2022, et nous l'avons ouvert le 28 décembre 2022. Donc mon adjointe, Madame Lozac, a réussi à porter ce projet dans les temps. Et ce RPE aujourd'hui permet aux familles d'avoir un interlocuteur qui les aide dans leur relation au quotidien avec les assistantes maternelles, de mettre en adéquation le besoin et l'offre. Le besoin exprimé par les parents, un besoin pour le moins cuisant et difficile, et l'offre d'assistantes maternelles. Et puis enfin, un point que j'avais pas mesuré au préalable, qui est l'aide qu'on peut porter aux personnes qui souhaitent devenir assistantes maternelles. Je me suis rendu compte que nombre de personnes souhaitaient devenir assistante maternelle, mais aujourd'hui, dans un pays comme la France, où tout est encadré, tout est normé, devenir assistante maternelle suppose d'avoir une qualification. Laquelle qualification suppose de présenter, parce qu'on aime ça en France, présenter un projet, rédiger. Et certaines personnes sont en difficulté devant se retrouvent tout à fait seules et en difficulté, et baissent les bras. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'assistantes maternelles, parce que nous n'étions pas en capacité de les aider. Donc, ce RPE va aussi aider les personnes qui souhaitent demain devenir assistantes maternelles. Voilà, et ça, c'est un grand projet auquel je tenais particulièrement, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel il faut reconnaître, aujourd'hui, les jeunes parents sont en difficulté, c'est comment faire garder mon enfant. Et ça, c'est le sujet de tous les parents.
Voilà. C'est un sujet, effectivement.
C'est un vrai sujet.
Très important. Et toujours, justement, pour répondre aux besoins des jeunes, vous allez inaugurer demain à 14h un street workout. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, le street workout, c'est un espace. Alors, moi, j'aime pas tellement les anglicismes, mais je pense que là, j'ai pas pu passer à côté, pour le coup. Alors, effectivement, il y avait ce street workout est issu, là encore, de deux réflexions. La première, c'est que les jeunes adolescents me disent, mais monsieur le maire, on a besoin d'un espace dédié. On est là-haut sur la dalle d'Acosta, c'est pas terrible, on gêne les gens et compagnie. Donnez-nous quelque chose. Donc on a quand même des infrastructures, on a quand même deux gymnases, on a des stades, mais les jeunes ont besoin d'un endroit qui leur soit dédié, accessible à tout moment, en toute liberté, sur lesquels ils peuvent faire du sport, se retrouver, écouter de la musique. Bref, j'ai trouvé un endroit au-dessus de la mairie, là, au-dessus de l'ancien stade, qui est un endroit que je leur dédie complètement. Je le dédie aux adolescents parce que c'est un endroit qui est extrêmement, assez éloigné des habitations. Donc les jeunes sont là, ils font du sport puisque il y a des agrès pour faire du sport, de la musculation. Bref, ils peuvent écouter leur musique un peu plus fort que la moyenne. Il n'y a personne que ça va déranger. C'est un espace que je veux tout à fait leur dédier. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé pendant la campagne, mais qui s'est avéré nécessaire au gré des rencontres que nous avions avec nos jeunes. Voilà, donc c'était un besoin qui correspondait aux attentes de mon adjoint au sport, Monsieur Suarez, et aux attentes de Monsieur Dimitri Mendy, qui est mon adjoint à la jeunesse.
Et ce sera donc une inauguration demain, on le rappelle, à 14h.
Demain, à 14h, juste au-dessus de l'hôtel de ville, à côté de l'espace jeune, nous aurons une inauguration officielle avec une démonstration, c'est pas moi qui la ferai, je vous rassure, sur les agrès de musculation, de sport. Voilà, c'est un moment auquel je tenais tout particulièrement. C'est un projet que je n'avais pas en tête pendant la campagne, au contraire, par exemple, du RAM ou du RPE, mais auquel je tiens particulièrement pour nos jeunes ados.
Et ce sera le mot de la fin. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Vous revenez quand vous voulez, Julie.
Notre émission est à présent terminée. J'en profite pour remercier notre réalisateur, Robin. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour votre journal d'information locale. Tout de suite, c'est le retour de la matinale avec Frédo.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.